Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Carole.
Vous avez accepté de participer à ce podcast Les Audacieuses, ce qui veut dire qu'a priori vous vous considérez comme telle. Est-ce que vous êtes une audacieuse ?
Effectivement, j'espère, je pense être une audacieuse. Et du coup, je suis très contente qu'on puisse faire cet épisode ensemble et qu'on nous ait mis en relation.
Alors, première question, quelle est votre définition de l'audace ? C'est quoi l'audace et c'est quoi être une audacieuse ?
Pour moi, l'audace, c'est rêver en grand. C'est se projeter dans des projets qui vont loin et qui permettent d'aller imaginer et ensuite mettre en œuvre du grand, du beau, de l'ambitieux.
Alors, vous dites projet, ça veut dire que quand on est audacieux, il faut qu'il y ait un projet.
Alors moi, je le définis comme ça et c'est peut-être assez personnel parce que j'ai toujours 1, 2, 3 projets sur le feu en même temps. Je suis aussi une slasheuse, mais on en discutera peut-être tout à l'heure. Et effectivement, l'audace, quand elle se matérialise, en tout cas me concernant, et vous m'avez demandé ma définition de l'audace, c'est effectivement dans la façon de mettre en œuvre un projet, une idée et de faire en sorte que ça devienne une action très concrète qui ait de l'impact.
D'accord. Alors, j'aime bien ce mot concret aussi. Racontez-moi, quelle est votre plus belle audace, la plus récente ou une des plus récentes au cours des 5 dernières années ?
Alors, je pense que c'est d'avoir complètement changé de vie et créé mon entreprise. Ma plus belle audace, ça a été de lâcher la rampe du salariat et de faire le choix, après une vingtaine d'années, dans le monde des médias et de la communication, essentiellement en agence média, mais également dans les GAFA, puisque j'ai travaillé 3 ans chez Facebook, de créer mon entreprise, ce que j'ai fait en 2017. J'ai créé un cabinet de recrutement de dirigeants qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisé dans les métiers de la technologie et du digital. Donc concrètement, je fais de la chasse de tête de dirigeants. C'est un métier à 2/3 temps. Et en parallèle de ça, j'ai rajouté d'autres audaces. J'ai publié un livre sur le futur du travail qui s'appelle « Les métiers du futur » en 2019, qui a bien marché, que j'ai décliné ensuite dans un observatoire des métiers du futur, qui est une association qui impacte positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de transformation du travail. J'ai écrit un deuxième bouquin, j'ai créé également un podcast. Donc tout ceci, en fait, va nourrir toujours autour du même thème qui est le futur de l'employabilité et comment, très concrètement avec mon entreprise qui est Colibri Talent et très concrètement ensuite avec des outils d'influence que peuvent être les livres, le podcast ou l'observatoire, je peux amener tout ceci à se croiser pour œuvrer à l'employabilité du plus grand nombre.
Donc vous êtes tout le temps dans la projection, dans l'avenir.
Oui.
On peut le dire.
Je suis tout le temps dans l'avenir. Alors après, je ne suis pas futurologue pour autant, mais effectivement, j'ai développé en 5 ans vraiment une capacité à détecter les signaux faibles et du coup à avoir une vision prospective, mais qui n'est pas du tout une vision hors sol. Cette vision prospective, elle est vraiment basée sur des rencontres. C'est pour ça que j'ai mon propre podcast. C'est pour ça que j'écris des bouquins qui toujours sont faits avec à la base d'interviews et de rencontres avec des dirigeants, des start-upers, des chercheurs, enfin bref, des femmes et des hommes qui, à chaque fois, construisent le travail et les métiers de demain.
Alors, cette idée de métier de demain, elle vous est venue comment ? Enfin, comment tout ça s'est construit ?
Hyper naturellement, en fait, c'est venu 1 an après la création de Colibri Talent. Parce qu'en année 1, je me suis rendu compte, quand j'ai fait le bilan de la première année, que je faisais surtout, mes clients me demandaient surtout de recruter pour des créations de postes, pour des sujets de transformation d'entreprise. Et donc, je passais mon temps à imaginer des métiers qui n'existaient pas dans leur boîte, à écrire des fiches de postes. Et je me suis dit, bah, très bien, pour faire la communication de l'année 2 de mon entreprise, parce qu'on ne peut pas vraiment parler des clients et des chats, tout est confidentiel, bah, pour faire la communication de l'année 2, je vais imaginer 10 métiers du futur, je vais faire 10 interviews pour les illustrer, puis ça fera 10 articles. Puis j'ai fait ça tout un été, l'été 2018 en l'occurrence, et à la fin de l'été, il y avait 100 000 signes. Et je me suis dit, en fait, ça peut être un bouquin. Et du coup, je suis partie un peu audacieusement, en tout cas un peu inconsciemment. J'ai envoyé ces 100 000 signes où il y avait, j'ose l'avouer, même pas de plan. Il y avait à peine 4 pages sur ma vision. J'ai envoyé ça à 3 éditeurs. Et un de ces éditeurs, en l'occurrence les éditions First, avec le groupe Editis et une femme formidable que je remercie à ce micro qui s'appelle Laure Hélène Akaoui, a cru à ce projet, m'a proposé de la rencontrer, m'a dit « Bon, alors votre truc, c'est pas un livre, hein ?» Un livre, c'est 300 000 signes, c'est pas 100 000 signes, c'est pas 10 interviews, c'est 30. Ce serait quand même pas mal que vous ayez un plan, mais il y a une vraie idée. Et c'est parti comme ça.
Qu'est-ce qui l'a intéressé ? C'était le fait que vous répondiez à une certaine inquiétude, peut-être, du public, sur ce que peut être l'avenir, notamment quand il est question d'emploi.
Alors, je pense que justement, c'était le fait de ne pas diffuser l'inquiétude. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres, beaucoup de contenus, beaucoup de messages qui sont envoyés qui sont très anxiogènes sur ces sujets de transformation des emplois et du travail. 72% des personnes qui vivent en Europe, c'est un chiffre de la Commission européenne, pensent que les robots vont leur voler leur travail. Et moi, j'ai pris le contre-pied totalement inverse et je suis l'une des rares, j'espère pas la seule, mais l'une des rares, qui était de dire on va impacter positivement. Donc c'est ce que fait l'Observatoire, c'est ce que font mes livres. À chaque fois, c'est une vision positive de où est-ce que ça recrute, qu'est-ce qui se transforme. Moi, je crois beaucoup à Schumpeter et la destruction créatrice. Je ne suis pas la seule à croire à ça. Hein. Eurostat, qui est l'Institut européen statistique, hein, l'équivalent de notre INSEE, estime que le digital va créer 15 millions d'emplois en Europe d'ici 2025 et en détruire 6 millions. Donc quand on fait la différence, on se rend bien compte qu'a priori, il y a pas mal de possibilités. Mais oui, l'angle, c'était d'être positive. Et c'est ça qui, je pense, a fait la différence et a fait que le projet, d'une part, a rencontré son éditeur et d'autre part, ensuite, a rencontré son public. Et même chose pour le deuxième bouquin, parce que j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle Emploi 4.0, qui est sorti assez récemment aux éditions Atland. Et c'est pareil, Philippe Lemarchand aux éditions Atland a cru à ce projet parce qu'il était positif et a permis de changer... un gros doc word, parce que c'est pas autre chose hein, qu'un projet de livre, c'est jamais qu'un gros doc word, en un vrai bouquin. Et ça c'est chouette.
Une audacieuse est toujours dynamique.
C'est une question. Dans mon cas, oui. Mais parce que je sais pas me poser. Je sais pas si c'est vrai pour toutes les audacieuses. Je pense qu'il y a des audacieuses beaucoup plus, pas forcément contemplatives, mais en tout cas peut-être plus réservées que moi, ou pas forcément en ayant 5 projets en parallèle. Moi, je fonctionne comme ça. Et j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat pour justement pouvoir mener 4 ou 5 projets de front sans avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est à mon banquier, à mon expert comptable bien-aimé, puisque bon, quand même, il y a une histoire de modèle économique dans tout ça.
Bien sûr. Donc, vous êtes une audacieuse heureuse.
Ah, complètement.
Encore plus heureuse qu'il y a quelques années.
Beaucoup plus heureuse qu'il y a quelques années. Je ne renie pas du tout les années dans le salariat. J'y ai beaucoup appris et je me suis beaucoup construite. Et encore une fois, moi, j'ai eu l'entrepreneuriat tardif à 41 ans, mais le fait de s'être lancée, vraiment, moi, m'épanouit beaucoup. Et le bilan, au bout de 4-5 ans, il est vraiment hyper positif.
Vous ne vous sentez pas parfois un peu seule dans cet entrepreneuriat féminin ?
Alors non, pour différentes raisons. Je viens d'une famille d'entrepreneurs sur 4 générations. Donc la solitude entrepreneuriale était quelque chose que je connais et auquel je n'avais pas forcément été confrontée, mais que j'avais vraiment en tête. Donc déjà, quand je me suis lancée, je me suis entourée d'un advisory board, donc d'une dizaine de personnes qui m'a conseillé dès le départ de la création de la boîte. C'est aussi pour ça que j'ai monté l'Observatoire, qui est un collectif, l'Observatoire des métiers du futur. On est 14 aujourd'hui, donc j'anime ce collectif-là. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir me former et de faire des très belles rencontres grâce aux différents projets de formation que j'ai fait depuis que je suis entrepreneur. Le premier, c'est un cursus à l'ESSEC pour être administratrice certifiée. Et j'en parle maintenant parce que c'est là que j'ai rencontré Michel Benzeno, qui nous a mis en contact et qui est aussi passé au micro des audacieuses et qui est une audacieuse. Donc voilà pourquoi j'en parle. Et j'ai aussi, me suis aussi formée à l'école de guerre, qui est un cursus pour militaires en milieu de carrière, que j'ai eu la chance de faire en tant qu'auditrice civile. Et j'y ai trouvé une camaraderie, un esprit de corps, une vision, quelque chose d'extraordinaire qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et justement, ça a beaucoup contribué à rompre la solitude entrepreneuriale, notamment pendant le Covid. Et je m'y suis tellement plu que j'ai rejoint l'armée de terre en tant que réserviste citoyenne. Donc, je suis aujourd'hui commandante dans l'armée de terre, au sein de la DRH de l'armée de terre. Et c'est... La réserve citoyenne, c'est un moyen en fait de faire du bénévolat et concrètement d'offrir des journées de consulting et de contribuer au rayonnement de l'armée et d'offrir sa matière grise à la nation.
Et comment avez-vous été connectée à cette belle aventure ?
Alors au départ, c'est parti d'un candidat que j'avais rencontré au sein de Colibri Talent qui me dit à un moment, écoutez, je cherche un emploi, mais pas tout de suite parce que je fais l'école de guerre. Et il me raconte ce que c'est, parce que peu de gens savent ce que c'est, donc je vais peut-être le dire au micro des auditrices et de vos auditeurs. Concrètement, un officier de l'armée française va être sélectionné 3 fois dans sa vie. Une première fois autour de la vingtaine, avec des concours plutôt scientifiques pour devenir... pilote d'avion, marin, officier dans la gendarmerie, que sais-je. Une seconde fois à 35 ans, entre 35 et 40 ans, pour devenir donc membre de l'école de guerre. Et là, ils ont un concours à mi-carrière qui va sélectionner les gens sur des capacités de leadership, de vision, d'éloquence, capacité de négociation. Ils en gardent à peu près 20%. Et une troisième fois à 45 ans, et là, ils gardent qu'une trentaine de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'école de guerre, on mélange 170 officiers français, des marins, des gendarmes, des aviateurs, des terriens, quelques pompiers, quelques médecins, avec 60 officiers de l'OTAN, donc qui sont là en mode échange international, et une cinquantaine de civils, des gens issus de l'industrie de l'armement et de grosses boîtes, mais aussi des gens au parcours beaucoup plus atypiques, comme moi, mais il y avait aussi 2 comédiennes dans la promotion, un journaliste spécialisé dans le djihad, quelqu'un spécialisé dans le réchauffement climatique et la protection des animaux WWF, un spécialiste d'épaule, donc des trucs vraiment qui paraissent ne rien avoir à voir, qui en fait ont tout à fait à voir, puisque l'idée est de se dire que les armées, pour leurs futurs dirigeants, doivent avoir des gens qui sont au fait de ce qui se passe dans la société civile et que le meilleur moyen, c'est de lâcher 50 civils dans la promo pendant un an.
Mais écoutez, voilà, effectivement, vous m'embouchez un coin parce que je ne connaissais pas. Je connais évidemment, comme tout le monde, l'armée et ses ressources, mais ce point précis, je ne le connaissais pas. Du coup, ça me fait dire, est-ce qu'à l'âge de 20 ans, vous vous projetez comment dans votre vie d'adulte ? Comment vous vous imaginiez à l'époque ?
Alors, à 20 ans, je m'imaginais travaillant dans les médias et dans la communication. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire et vers lequel je me suis orientée assez jeune. J'ai su dès 16 ans que je voulais faire ça. Ce qui m'a permis derrière d'aller faire une école de commerce et en l'occurrence l'EDEC et derrière un master au CELSA, mais surtout de faire tous mes stages dans ce domaine-là, dans des groupes de presse, à l'époque chez Canal+, ou en agence. Et en fait, j'ai fait un bilan de compétences au moment où j'ai eu mon premier enfant, donc je devais avoir 27 ou 28 ans. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée à la conclusion qu'à un moment dans ma carrière, je deviendrai entrepreneur, je deviendrai solo entrepreneur, et plutôt pour travailler sur la matière humaine, donc soit le recrutement, soit le coaching. Et en tout cas, c'est une idée donc, que j'ai eue assez tôt. Et la personne qui m'avait suivie pendant ce bilan de compétences m'avait quand même fait remarquer que j'étais très enceinte, que j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant et que c'était peut-être pas forcément le meilleur moment pour entreprendre. Et du coup, j'ai gardé le projet de Colibri Talent dans un coin de ma tête. Il est resté assez longtemps puisqu'il est resté pendant 15 ans. Mais à chaque fois que j'ai pris un rôle dans une nouvelle agence, chez un annonceur ou dans une association interprofessionnelle, à chaque fois, je prenais les sujets métier, emploi, reconversion, employabilité, en plus du reste. Et du coup, ça s'est fait très naturellement au moment où je me suis sentie prête à lâcher cette fameuse rampe du salariat. Du coup, le passage s'est fait de manière assez simple. Mais c'est des idées qui sont assez anciennes.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était à l'orée de la quarantaine, hein, si j'ai bien compris. Et vous avez dit, c'était tard. Pour vous, il y a un âge idéal pour devenir entrepreneur ?
J'en sais rien. J'ai dit que c'était tard parce qu'en fait, aujourd'hui, la culture de l'entrepreneuriat qui est renvoyée dans le monde des médias est une culture de l'entrepreneuriat assez jeune, on va dire du start-upper urbain, trentenaire, voire vingt-cinquenaire. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs. Je crois que vous-même, vous êtes rentré, vous avez créé votre boîte après 50 ans, me semble-t-il.
Donc, à l'âge du papa de Bernard Tapie, à 55 ans, il le disait avec beaucoup de fierté que son père était devenu entrepreneur à 55 ans. Oui, mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de femmes qui ont 45, 50 ans et qui démarrent.
Donc ça, ce n'est pas impossible, mais on ne le sait pas forcément.
On ne le sait pas forcément, et effectivement, moi je dis plus tardif, et c'était peut-être pas le bon mot, et j'espère que j'ai froissé personne en disant ça, parce que les gens dans le milieu de la tech et du digital sont des gens qui sont très jeunes, ce qui, je pense, pose un sujet. L'âge médian dans la tech, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. Aujourd'hui, donc déjà, il y a un sujet de décalage entre ce secteur-là et le reste de la population active, ce qui pose un problème parce que le secteur du numérique est celui qui recrute le plus en France et qui crée le plus d'emplois en France. Donc c'est une première barrière à l'entrée. Et puis au-delà de ça, on va tous travailler jusqu'à 62, 65, peut-être même 67 ans. Donc il y a un sujet d'inclusion dans l'emploi jusqu'à la fin de sa carrière, qui peut être par l'entrepreneuriat, mais qui doit aussi pouvoir se faire par le salariat pour les gens qui le souhaitent. Et effectivement, on a plus de 57% de la population active qui a plus de 50 ans. Donc du coup, française qui a plus de 50 ans. Donc il y a un vrai sujet à être inclusif sur toutes les générations. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis de passer le coup de booster et d'avoir l'audace, c'est d'avoir créé cette boîte. Et peut-être que j'aurais pu la créer 5 ans avant. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. J'aurais pas pu le faire en début de carrière. J'aurais pas eu l'expérience, j'aurais pas eu le recul. Après, peut-être que j'aurais pu le faire à 37, 38, plutôt que 41. Ou 48 ou 49, j'en sais rien.
Alors, il y a aussi peut-être un sujet de sexe. Hein. On sait que dans la tech, effectivement, et notamment du côté des startups, ce sont essentiellement des garçons qui entreprennent.
Les chiffres exacts, c'est que vous avez 30% de femmes qui travaillent dans le secteur du numérique et 56% vont abandonner à mi-carrière. Là où il y a un deuxième biais, c'est sur les dirigeants dans les boîtes de tech. Parce que là, pour le coup, on a à peine 5% de femmes. Et surtout, elles ne lèvent que 2,2% des fonds. C'est-à-dire qu'elles présentent moins de dossiers au fonds d'investissement. Donc, il y a 5% de dossiers en entrée égale grosso modo 5% de dossiers en sortie. Et elles demandent moins d'argent. Elles présentent plus tard. Et elles demandent beaucoup moins d'argent.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une étude qui a démontré, ça c'est vous la spécialiste, hein, mais bon, qui dirait que en fait, le mode opératoire est différent, c'est-à-dire que les femmes attendent d'avoir fait la preuve du concept pour aller faire des levées de fonds, donc, et qu'au bout de 5 ans, alors que les hommes démarrent tout de suite, eux, ils veulent tout de suite de l'argent, et qu'au bout de 5 ans, en fait, le résultat est le même. Est-ce que vous confirmez cette...
Alors,
cette
je confirme, et puis surtout, il y a un sujet d'orientation des startups créées par des femmes. Très souvent, vous avez des choses qui sont liées à l'économie sociale et solidaire, au circulaire, à beaucoup de sujets comme ça, qui seraient plus féminins. Je pense que ça ne doit pas forcément être le cas, mais en tout cas, souvent, les projets portés par des femmes sont dans ce domaine-là, ce qui est très bien. On a besoin de l'économie sociale et solidaire, mais dès que vous avez beaucoup de masse salariale, l'investisseur, ce n'est pas ça qu'il recherche. Il recherche une techno avec pas trop de gens dedans. Donc, ça peut être assez antinomique et les hommes seraient réputés pour faire des projets peut-être plus faciles à financer ou en tout cas plus faciles à présenter à des fonds d'investissement. Moi, après, je ne crois qu'à la diversité et je pense que pour qu'une entreprise réussisse, qu'elle soit start-up, scale-up ou grand groupe, il faut que dans sa gouvernance, il y ait des gens d'origine différente. Et il y a d'ailleurs une étude à ce sujet qui est une étude de McKinsey qui a été faite sur 1000 entreprises dans une douzaine de pays et qui démontre que quand vous avez une gouvernance à parité, vous avez une surperformance de 5%. Et quand vous avez une gouvernance qui réunit les 5 types de diversité, donc le genre, les générations, l'origine sociale et culturelle, le handicap et l'orientation sexuelle, vous avez une super surperformance de 15%.
Pardon, tout à l'heure j'ai dit le sexe, j'aurais dû dire le genre. Comment vous projetez dans 10 ans ?
Ouh, je suis pas sûre que j'y réfléchis. Je pense que je serai toujours à mon compte. Je pense que Colibri Talent sera toujours là, c'est-à-dire que je ne me vois pas forcément revenir dans le salariat. Après, comment sera orientée la boîte ? Combien de projets je mènerai en parallèle ? Là, il y en a 4 ou 5 en même temps. Je travaille seule, donc je pense que j'aurai du mal à en avoir 10. Donc, il y en aura sûrement un ou deux qui seront mis en retrait, et sûrement un ou deux de plus qui auront été lancés entre-temps. Mais je me projette en tout cas dans une route au service de l'employabilité du plus grand nombre. Après, de plein de manières possibles, que ce soit par le contenu, que ce soit par le cabinet de recrutement, par l'association, par le podcast, on verra bien.
D'accord, donc tout est ouvert. Je crois avoir compris que vous avez des enfants.
Complètement, j'en ai deux. Ils ont 12 ans et 16 ans.
Des garçons, deux garçons ?
J'ai deux garçons.
D'accord. Enfin, qu'est-ce que vous pensez que vous leur renvoyez comme image de femme et même de maman ?
Alors, je pense que je renvoie une image de maman hyperactive. À un moment, je pensais que je renvoyais une image de maman féministe, mais mon aîné m'a expliqué qu'il était bien plus féministe que moi et que j'étais limite un produit féministe édulcoré. Mon mari n'a pas du tout la même vision du sujet. Lui, il trouve que je suis beaucoup trop féministe. Donc, c'est assez drôle parce qu'en fait, ça montre qu'on a tous des échelles de valeurs qui sont différentes. En tout cas, j'espère que je leur renvoie l'image d'une maman épanouie, active et pour autant impliquée dans sa famille. Une des raisons de l'entrepreneuriat était aussi de pouvoir avoir la gestion de mon temps de la manière dont je le souhaitais. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé la vie de famille parce que je bosse beaucoup, mais je bosse de là où je veux. Et ça date de bien avant le Covid. Et ça permet du coup, effectivement, d'avoir des temps en famille qui sont choisis et qui sont plus, et qui sont beaucoup plus souples. Et ça, c'est très agréable.
Et ça, vous y arrivez vraiment ?
Ouais.
Je dis ça pour rendre le service à celles qui vous écouteraient et qui vont vous écouter d'ailleurs et qui auraient effectivement ces envies et peut-être ce fantasme que lorsqu'on est entrepreneur, on arrive à avoir beaucoup plus de temps libre, en tout cas qu'on le gère. En tout cas, c'est ce que vous dites vous. Mais vous travaillez le week-end et vous travaillez le soir, rassurez-moi.
Ah bah oui, je travaille le week-end et je travaille le soir. Par contre, si je veux me prendre l'intégralité des vacances scolaires, je peux le faire. Si je veux me dire que j'arrête pendant 2 mois, juillet, août, et que je fais très peu de choses sur juillet, août, parce que j'ai envie de prendre l'air et de me ressourcer, je peux le faire. Et je l'ai déjà fait. Donc, je ne l'ai pas fait tous les étés depuis que la boîte existe, mais je l'ai fait un été, où j'ai coupé grosso modo du 15 juin au 25 août. Donc voilà, le rythme se gère. Et là, sur 2022, je me suis organisée pour pouvoir vraiment prendre l'ensemble des vacances scolaires, donc prendre 15 jours toutes les 6 semaines. Donc pas forcément sans complètement travailler, mais en tout cas en se disant « je ne suis pas à Paris, je fais des choses différentes, je me suis organisée 2-3 petits voyages, pas forcément très loin, mais en tout cas pour me dire « du coup, je prends le temps de prendre l'air ».
Alors cette audace, je reviens sur ce sujet-là de quitter le salariat pour la vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Comment ça a été vécu dans votre entourage ?
Alors, très bien, mais encore une fois, parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs sur 4 générations. Donc, j'ai un profil assez atypique là-dessus. Pour la petite histoire, quand je l'ai annoncé en 2017, c'était à ma famille. Alors, pas à mon mari et mes enfants. Mon mari et mes enfants ont été dans le projet depuis le départ et depuis assez longtemps. Mais quand je l'ai annoncé à ma famille, on va dire élargie, je l'ai fait à l'enterrement de ma grand-mère, au dîner, le soir, après les obsèques. Je dis, bon, ben voilà, je vais quitter mon employeur et puis je vais créer ma boîte, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, t'es grande, tu vas avoir un cabis, des enquiquinements avec l'URSSAF. Oh, c'est bien, t'es salariée quand même. Et j'avais pas du tout je ne m'étais pas rendu compte de ce regard-là qu'ils avaient sur moi. Effectivement, sur ma génération de cousins, j'étais la seule salariée. Donc, mais c'est un profil assez atypique. Donc, du coup, l'accueil a été très bon. Et justement, le côté lutte contre la solitude entrepreneuriale ou savoir appeler quelqu'un quand on est en galère avec l'URSSAF, savoir où trouver l'expert comptable, apprendre à lire son pré-bilan. J'avais des gens à appeler qui avaient vécu la même chose, donc ça simplifiait beaucoup les choses. Et c'est vrai que pour les femmes qui veulent se lancer, choisissez un très bon expert comptable. Et il y a un conseil à avoir en tête, c'est que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. C'est la seule chose à savoir quand on crée sa boîte et qu'on veut vivre de son travail en se salariant soi-même. Le seul sujet, c'est la trésorerie. Les clients, ça se trouve. Les clients qui payent les factures dans les temps, il y en a, mais c'est plus rare. Souvent, il faut relancer.
Donc ça, c'est le conseil. Si vous aviez eu des filles, est-ce que vous les auriez incitées à être des audacieuses ?
Bien sûr.
Alors, vous l'auriez formulé comment ? Qu'on comprenne un petit peu. Ça va nous permettre peut-être d'avoir une autre définition, une autre projection de ce mot audace.
Mais pareil, rêve en grand. Enfin, c'est tout est possible. Il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai la conviction, alors après, ça peut être anxiogène, mais que les barrières, c'est nous qui nous les mettons. Les plafonds de verre, c'est en partie nous qui les créons parce qu'on n'ose pas aller un pas plus loin. Et c'est vrai que moi, on m'a mis très peu de limites parce que j'étais fille unique. Et je pense que du coup, ça a joué parce que du coup, mes parents m'ont poussée sans qu'il y ait une préoccupation sur une éventuelle barrière de genre. Moi, j'ai découvert les barrières de genre, je devais avoir 25 ans. Je n'y avais jamais été confrontée. Donc du coup, je ne me suis pas du tout pris la tête avec.
Est-ce que vous étiez dans un milieu où elles étaient particulièrement présentes, ces barrières ?
Je ne sais pas, milieu de la communication. Il y en a quand même dans la communication, dans le sens où vous avez 70% un métier féminisé. Mmh. Et dès que vous montez dans les hautes sphères et dans les métiers de direction, il y a de moins en moins de femmes.
Voilà, donc on s'en rend compte peut-être un petit peu plus tard, comme l'on dit quand on avance en âge.
Tout à fait, c'est possible, voire même c'est certain. Je m'en suis plus rendu compte... au moment des grossesses et des discussions que ça a pu engendrer avec mes employeurs qui pourtant ont été très accueillants sur le sujet. Mais effectivement, c'est là où on voit qu'on peut prendre du retard. Mais la seule vraie barrière de genre très concrète que j'ai rencontrée, je l'ai plutôt rencontrée en prépa parce que j'avais des très gros temps de trajet, j'habitais loin de la prépa et qu'il y avait très peu de place à l'internat pour les femmes. C'était un lycée plutôt scientifique qui du coup avait beaucoup de chambres pour des garçons qui voulaient faire du scientifique. Et quand on était une fille, il y avait mais 5 fois moins de place. Et du coup, j'étais mineure à l'époque, j'ai préparé très jeune. Et du coup, mes parents refusaient catégoriquement que je loue un studio à côté du lycée en mode « t'as même pas 18 ans, il n'en est pas question ». Et du coup, je me suis vraiment fait une année de prépa avec beaucoup, beaucoup de trajets. Donc là, ça m'a désavantagée. Ce n'est pas une discrimination voulue, mais c'est très concret. Je ne sais pas s'il y a plus de 25 ans. Donc j'ose imaginer qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des barrières à l'accès qui sont très bêtes. En tout cas très concrètes et qui peuvent couper les ailes.
Oui, c'est-à-dire que les parents, ils ont peut-être un petit peu plus de crainte quand il s'agit d'une fille que d'un garçon. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai les deux genres. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait aussi rassuré de voir sa fille en pleine nuit, à l'extérieur. Son garçon, on se pose moins ce type de questions.
C'est possible. Là, je crois que c'était vraiment... Il pensait qu'à 17 ans, je ne serais pas capable de me faire à manger toute seule et de me dépatouiller. Il pensait que j'étais trop jeune pour gérer et la prépa et le fait de vivre seule 5 jours par semaine. Donc... Après, je ne sais pas s'ils avaient raison, s'ils avaient tort, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis cognée des bonnes heures dans le train.
Donc finalement, les questions de genre, à l'époque en tout cas, ce n'était pas trop un sujet. Est-ce que c'en est un aujourd'hui pour vous ?
C'en est un dans le numérique. C'en est clairement un dans le numérique.
Et pourquoi ? Ça se manifeste comment ?
Parce qu'il n'y a que 30% de femmes dans l'industrie numérique.
Ça ne vous freine pas, visiblement ?
Ah non, ça ne me freine pas. Mais par contre, ça me complexifie la tâche dans les shortlists que je peux faire pour les clients, puisque j'essaye systématiquement, Colibri Talent adhère à la charte de la diversité. C'est le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé l'entreprise. Premier chèque que j'ai fait quand j'ai eu le chéquier. Et donc concrètement, quand je fais une shortlist, j'essaye d'avoir systématiquement au moins un profil de femme et systématiquement au moins un profil... 50 ans et plus, parce que effectivement, je suis plutôt de la chasse de dirigeants, donc plutôt un profil expérimenté.
D'accord. Un message pour toutes les audacieuses de France et de Navarre, comme on disait à une époque, et puis on conclura sur ce point.
Je reprendrai une citation de René Char que j'aime beaucoup. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. »
Tout est dit. Merci beaucoup Isabelle Rouen.
Merci beaucoup Carole.
Merci de ce beau témoignage. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.